Bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce lundi 4 mars 2024 en direct sur YouTube pour suivre le 273e numéro du podcast Hors-jeu Capital pour revenir sur toute l'actualité qui occupe l'espace parisien depuis ce match nul contre Monaco vendredi soir au Stade Louis II et cet événement entre Mbappé et Luis Enrique, le capitaine parisien, le capitaine en l'absence de Marquinhos qui a été sorti à la mi-temps et on va revenir évidemment sur cet épisode et également la projection sur le match de demain, le 8e de finale, retour face à la Real Sociedad. Pour m'accompagner en ce lundi matin à 10h, Yacine Annette qui est présent. Yacine, toujours fidèle au poste. Comment vas-tu, Yacine?
Salut à tous, ça va bien, merci. Pour l'instant, ça va.
Content aussi parce que la Ligue des Champions revient demain.
Ah, on aime bien ces semaines-là quand même. Il y a un peu d'excitation. Et puis, comme au PSG, c'est toujours calme à ce moment-là, c'est encore mieux.
Effectivement, et on a hâte d'être à demain soir pour la qualification, on l'espère, en quart de finale. Clément Pernia également, comment ça va Clément?
Salut Hugo, salut à tous. Bah écoute, moi je suis moins serein que beaucoup de supporters en vue de demain, donc je vais laisser la sérénité aux autres, je vais les laisser me rassurer, là Nico, Yacine, rassurez-moi, dites-moi qu'on va passer, et expliquez-moi comment.
C'est ce qu'on va développer dans le podcast Clément, et tu vas aussi répondre à la question. Pourquoi demain Paris? Comment Paris demain peut s'imposer? Avec quel 11, etc. On parlera de tout ça. Oui. Et pour terminer à la board, monsieur Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico?
Eh ben, bonjour à tous. Ça va bien. Je suis en train de regarder sur Twitter. Le groupe du PSG vient de tomber, les amis.
Alors, est-ce que Mbappé est dans le groupe?
Oui.
et je parlais d'Ethan. Hein.
Ethan, non. Il y a un Mbappé dans le groupe, mais je ne sais pas si c'est Ethan ou Kylian. J'attends la confirmation.
Bon, je pense avoir la réponse quand même à cette question. Ouais, il y a des chances. Bon, voilà, le parfum de la Ligue des Champions qui revient demain soir. Et évidemment, on est content ces semaines à 3 matchs, comme le disait Yacine. Avec ce 8e de finale retour face à la Real Sociedad, il faudra confirmer après la victoire 2-0 au match aller. Mais on va démarrer notre podcast avec... En premier thème, Mbappé, Luis Enrique, la rupture. Pourquoi? Eh bien, parce que vous l'avez tous suivi, fidèle suiveur du podcast Hors-jeu Capital, Mbappé est sorti contre Monaco à la mi-temps par Luis Enrique. Et donc, ça a remué beaucoup de vagues, puisque Kylian Mbappé n'est pas resté sur le banc pour la deuxième période. Il est parti en tribune aux côtés de sa mère. Il est parti faire. Il s'est rhabillé, il a fait quelques selfies et voilà, il a gagné la tribune du stade Louis II. Vous voyez les photos que Yacine vous met à l'image pour ceux qui nous regardent en live. Évidemment, ceux qui nous écoutent en podcast, malheureusement, vous n'avez pas les images. Mais bon, je pense que vous avez vu le match comme nous. Mbappé, voilà, tout sourire avec le téléphone à la main qui fait quelques selfies aux côtés de sa mère, Faiza, pour la deuxième période. J'aurai une question très simple, les amis. Je vais commencer en douceur avec Nicolas Puravo. Nico, on est à 3 jours après ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, etc. Il y a eu aussi, on en parlera, une discussion entre Luis Enrique et Kylian Mbappé le lendemain. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode qui est intervenu vendredi au stade Louis II à Monaco?
Je pense que c'est un épisode digne de ce que Mbappé nous montre depuis quelques temps, depuis plusieurs années, à savoir tout centré sur sa gueule. J'avais personnellement jamais vu un joueur faire un tel show comme ça à la mi-temps d'un match, alors que son équipe est sur le terrain, qu'il avait le brassard quelques minutes avant. J'ai écrit que je pensais que tout avait été calculé à partir du moment où on lui annonçait qu'il sortait. Je pense que toute la suite de la soirée est complètement calculée. Tout est dans l'image, tout est dans le contrôle. Voilà, il faut renvoyer cette image-là, il faut montrer à tout le monde que ça le touche pas, qu'il reste au-dessus de tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça détestable de A à Z. Un mec qui se change aussi vite, qui va faire des selfies avec une mascotte. Enfin, c'était lunaire. C'était une scène lunaire et on a parlé quasiment que de ça pendant 10-15 minutes alors que le match avait repris. Et voilà, moi j'étais très très choqué par ce comportement. Je sais qu'il y a évidemment, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans cette affaire. Il y a évidemment plein de composantes, il y a évidemment plein d'influences, de luttes à droite à gauche qui se passent. Et évidemment, tout ça est critiquable à tout point de vue, mais le comportement en lui-même d'Mbappé, j'ai trouvé ça à la fois tellement irrespectueux, tellement ridicule, tellement grotesque. Cette manière, encore une fois, d'attirer toute l'attention sur lui, d'être au cœur de tout. Même quand il est remplacé, en fait, il faut qu'il reste au cœur du match. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Je suis même pas énervé, en fait. Je suis, Je suis blasé par ce genre de choses, j'en peux plus, voilà. J'en peux plus de Mbappé, j'en peux plus de sa famille, j'en peux plus de tout ce qui se passe autour de lui chaque été depuis 3 ans. Voilà, j'ai hâte que le 30 juin arrive, qu'il s'en aille. Encore une fois, on le remerciera d'avoir battu plein de records au Paris Saint-Germain, d'avoir été un joueur globalement ultra performant la plupart du temps. Enfin voilà, mais franchement, tout ce cirque, c'est pitoyable et ça m'a. Voilà, je suis blasé. Je suis blasé plus qu'énervé.
Alors, j'ai un avis sur la question, évidemment. On a entendu l'avis de Nico. Clément, je vais me faire enfin, l'avocat du diable. J'ai entendu beaucoup de choses en disant que, alors évidemment, les torts enfin, sont partagés. Enfin, Kylian Mbappé est fautif, évidemment. Et il y en a qui reprochaient au fait de Luis Enrique que ça soit un peu trop drastique le moment en fait, où Kylian Mbappé jouait 90 minutes tous les matchs sans sortir. Et là, le fait que depuis qu'il a annoncé son départ, je vous donnerai son temps de jeu ensuite. Moi, je peux vous le donner même d'ailleurs. Depuis l'annonce de son départ, hein, début février, c'est 138 minutes jouées sur 270, 28 contre Nantes, où il était remplaçant, après le match justement de Ligue des Champions, sorti à la 65e contre Rennes, et donc sorti à la mi-temps contre Monaco. Qu'est-ce que tu penses, Clément, du fait que les gens disent que Luis Enrique, pour le coup, enfin, il a sorti Mbappé à la mi-temps contre Monaco, certes, il n'était pas bon, mais il n'était pas plus mauvais qu'un autre. Je ne parle pas du comportement d'Mbappé, hein. Tu pourras me donner aussi ton avis, je suis voilà, d'accord avec Nico, évidemment, à 100% dessus, mais sur le fait qu'il y a une cassure un peu trop... frontal de la part de Luis Enrique sur la gestion avec Mbappé.
Si les gens appellent drastique le passage d'un statut anormal à quelque chose de normal, bon ben moi ça me choque pas forcément. Moi j'étais content hier à la mi-temps quand j'ai vu une première image. C'était en voyant Hakimi revenir sur le terrain avec le brassard. Je me suis dit
Non, pas
bon,
hier, hein,
c'est bon.
Clément. Pas
Ah
hier, quand
ben,
même,
il y
ça fait
avait
3 jours.
vendredi, pardon.
C'était il y a une
Vendredi,
semaine.
pardon. Et je me suis dit c'est bien, il a compris puisque la normalité des choses quand ton équipe joue comme ça et quand Mbappé en l'occurrence joue comme ça parce qu'il était encore une fois exécrable en première mi-temps, c'est de le sortir, c'est de corriger, c'est de rectifier, c'est le rôle de l'entraîneur. Je vois Mbappé sortir, ce qui est quand même quelque chose de peu courant ces derniers mois, voire ces dernières années au PSG. Il le fait, je suis content. Après, je vois tout le cirque qu'a évoqué Nico, je vais pas revenir dessus. Moi, je suis plus choqué, je vais te dire, je suis plus choqué et je m'interroge sur ce qui se serait passé si ça n'avait pas été Mbappé, mais Messi ou Neymar ou qui tu veux d'ailleurs l'année dernière. Est-ce qu'on n'aurait pas vu depuis un communiqué du club? Est-ce que Mbappé n'aurait pas été sanctionné? Est-ce que même il n'aurait pas été privé de Ligue des Champions mardi? Certains parlent de réaction drastique de la part de Luis Enrique. Moi, j'ai plutôt envie de prendre le pendant inverse. Est-ce que là, on n'est pas trop gentil au vu de ce qui s'est passé vendredi? Est-ce que le PSG, sérieusement, peut réintégrer comme ça un joueur qui a fait tout ça vendredi? Je sais pas, moi. Il y a peut-être à une certaine époque, ses compagnons sur le banc de touche, il lui aurait mis un coup de bourre-pif à la fin du match dans le vestiaire, parce que c'est complètement irrespectueux ce qui s'est passé. C'est irrespectueux. Et je dis ses compagnons, ses camarades, mais je peux aussi parler de Luis Enrique. Comment un tel acte, un tel comportement, ça peut passer crème dans un vestiaire après une rencontre. Comment? Comment, moi j'ai vu des images, je sais plus qui était sur le banc, je crois que c'était Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler et compagnie. Comment les mecs, ils peuvent accepter ça à la fin du match et taper dans la main du bonhomme alors qu'il leur chie dessus, parce que clairement il leur chie dessus, en allant en tribune en disant, moi je me mets pas avec les mécréants comme vous, avec les cendants sur le banc de touche, moi je suis au-dessus, je ne fais pas partie de votre équipe quelque part. Et moi, Kylian Mbappé, je ne m'assois pas sur le banc. Peu importe que ce soit Monaco, sa mère, son ancien club, son jubilé en Ligue 1, peu importe, moi ça m'intéresse pas, ça c'est pas nos problèmes. Donc non, moi je ne pense pas que Luis Enrique a été trop drastique. En plus, Luis Enrique, on le connaît, il n'en est pas à son coup d'essai. Il me semble qu'il avait déjà mis Neymar, Messi et compagnie sur le banc au Barça. Je crois qu'à la Roma, il avait aussi mis Totti une fois sur le banc. Enfin, je crois qu'il avait déjà fait des coups comme ça. Mais moi, là, ce qui me choque le plus aujourd'hui, 3 jours après, c'est encore que ce soit passé crème. Alors, je te parle même pas de tous les consultants dans les médias qui défendent le joueur. Ça, c'est exceptionnel. J'ai l'impression que Luis Enrique a fait quelque chose de mal et Mbappé quelque chose de très bien. Non, non, je t'en parle même pas. Mais que ce soit passé crème, que le club n'ait pas réagi, même si, au fond de moi, je pense que le club voilà, va laisser couler la situation jusqu'à la fin de saison. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas que les joueurs dans le vestiaire laissent passer. Je ne comprends pas que tout le monde laisse passer un tel phénomène.
Avant de donner la parole à Yacine, Clément, je rappelle que tu sors ton livre hein, sur Mbappé,
Ouais.
coécrit avec Jean-Baptiste Guégan. Est-ce qu'il est à côté de toi? La révolution Mbappé, Et justement, il y a beaucoup de choses, et on en parlait, enfin, il y a un phénomène politique avec Kylian Mbappé, et tu t'attardes sur tout ce qui est un peu extra-sportif, il y a un peu de sportif, mais tu t'intéresses justement à ces choses-là, du fait que Mbappé ait pris cette dimension-là au Paris Saint-Germain.
Ouais, il y a ça, il y a aussi il y a la dimension qu'il a prise, et c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un chapitre sur qu'on a appelé les limites du phénomène, et dans ces limites, il y a un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire son rapport à l'institution, son rapport global comportemental au football par rapport à ceux dont il aimerait être comparé, les plus grands de l'histoire de ce sport, qui n'ont pas tous été parfaits, attention, hein, mais qui peut-être Mbappé pour atteindre ce niveau-là, bah devra passer certaines de ses limites, et à commencer par celle qu'on a vue vendredi.
Je me
Sur
rappelle la
le livre,
sortie
Clément, j'ai
dans
une
3 jours.
question rapide.
Oui, vas-y
Juste une petite
Nico.
question sur le livre. J'ai vu que il avait été présenté sur le plateau de l'équipe télé l'autre jour. Moi, je ne l'ai pas reçu personnellement. Voilà, c'est tout.
Ah bon? Alors, faut voir avec le service presse, Nico.
C'est tout. Petite parenthèse.
Et
Faut voir
moi,
avec le
alors
service presse.
moi, Nico, tu sais quoi? J'ai eu juste le mot d'un coursier qui m'a dit je suis passé, mais vous n'étiez pas là, et je ne l'ai pas dans la boîte aux lettres, et j'ai un numéro qu'il faut que j'appelle, donc je ne l'ai
T'as de
pas
la
reçu du tout.
chance.
Voilà. Mais
Après,
ça a été envoyé juste.
Nico, tu as été cité dedans, tu peux pas tout avoir.
Je sais, c'est pour ça. C'est rare de lire un livre où on est dedans, donc j'ai hâte.
Ouais, tu l'auras, tu l'auras.
Et c'est des fois, ça met un peu de temps, évidemment. Bon, Yacine, je viens te voir sur ton avis. Alors, je précisément, pas trop de gros mots, s'il te plaît. Je veux pas que la vidéo soit coupée par
Hey,
YouTube.
j'en dis jamais. Hein.
Oh non, bah non,
Dans les
jamais.
podcasts, j'en dis jamais. Non, dans les podcasts, j'en dis jamais.
Ah si, j'en ai déjà entendu. Bon, allez, donne-nous ton avis de façon, je sais que tu veux le faire bien, argumenté, construit, et sans trop, voilà, sans trop de vulgarité, mais je te fais confiance là-dessus, Assis.
Je vous préviens, je suis parti pour 17 minutes de monologue.
Allez, vas-y, vas-y.
Bon.
Monte doucement, par contre, doucement,
Ouais,
crescendo.
tranquille,
Vais aller
Yacine, tranquille, les
doucement.
gens, ils arrivent. Hey, Yacine, il est 10h16, vas-y, voilà, les gens viennent de se lever. Voilà.
Donc, comme je vais y aller doucement, je vais commencer par la direction. Évidemment que tout ce qui se passe là, la direction, elle est coupable. Elle est coupable de s'être mise à genoux pendant des années. Elle est coupable d'avoir jamais rien dit. Elle est coupable d'avoir mis Mbappé, mais d'autres joueurs, au-dessus du PSG. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées 1000 fois dans le podcast, la Coupe du Monde, l'image, le marketing, etc. Il y a des choses qui sont malheureusement normales. C'est-à-dire que le marketing, il en avait besoin pour développer le budget, etc. Bref. En juillet, quand on a fait le podcast, un des derniers podcasts qu'on avait fait, j'avais dit, Mbappé était dans le loft à ce moment-là. J'avais dit, OK, pour le mettre dans le loft, si c'est pour le mettre dans le loft et le reprendre au bout de mauvais résultats, ça sert à rien. Arrêtez le cinéma tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 matchs nuls, et moi je vous donne l'info, au bout de 2 matchs nuls, l'émir a repris les choses en main. Il a dit, maintenant vous arrêtez vos conneries et vous reprenez Mbappé dans le groupe. Voilà, vous arrêtez les bêtises là. Donc, après 2 matchs nuls, donc il revient contre Toulouse. Donc déjà, tout ce cinéma, il a servi à rien. Parce que d'un coup, bah, puisqu'il y a 2 matchs nuls, tu remets encore le joueur comme l'indispensable qui va te faire gagner. Ah bah ouais, il y a 2 mauvais résultats, il faut absolument le reprendre. Maintenant, sur Mbappé. Alors, je vais commencer par Monaco, et après, on va faire son bilan, parce qu'il y a plein de gens qui te disent, il a été irréprochable depuis 7 ans, comment vous pouvez nous expliquer qu'aujourd'hui, c'est un ennemi, c'est ceci, c'est cela. Alors, on va faire son bilan. Mais d'abord, on va s'expliquer. D'abord, et ben tu sais quoi, pour la peine, je vais commencer. Non, mais hey. Et ben tu sais quoi, je vais commencer par le bilan. Parce qu'en fait, finalement, Monaco, c'est la conséquence de tout ça. Donc, je rappelle, le trophée UNFP 2019,
Attends, je
je
vais
veux des
changer parce qu'on
responsables.
a perdu, Hugo là. Je reviens.
Le trophée 2019 UNFP, où il dit je veux des responsabilités, ici ou ailleurs, en 2019. Bon, il y a son match retour, évidemment, face à United 2019, où déjà il se foire, mais ensuite, le match d'après, il marque, et il se met vers le virage Auteuil en disant, en faisant sa tête là de toi, je sais pas, voilà, j'ai marqué, je sais pas, on sait pas trop ce qu'il veut dire d'ailleurs. Bref, ensuite il y a sa sortie avec Tourel contre Montpellier à la 83e, il y a 5-0 où il fait 2 minutes de cinéma à se prendre la tête avec Tourel. Allez, d'accord, il y a 5-0. Il y a la fameuse fois où il dit à Neymar, il dit de Neymar, ce clochard, il donne la balle. Je rappelle qu'Mbappé, il se cache la bouche quand il demande un mouchoir. Mais ce jour-là, sur le banc, il ne se cache pas la bouche et il dit ce clochard bien fort. Je vais passer sur le PSG Juve où à 2-0, il ne donne pas la balle à Neymar, alors que Neymar est tout seul face au but. Il y a la campagne d'abonnement où monsieur n'est pas content d'apparaître dans la campagne d'abonnement du club, un club qui lui donne 100 millions d'euros par mois. Il y a le penalty gate où il vient de rater un penalty et où il ne veut pas laisser tirer Neymar le deuxième. Bon, Neymar s'impose, marque et voilà. Il y a le pivot gang. Alors le pivot gang, c'est un tout parce qu'il y a le pivot gang, il y a la déclaration en équipe de France où il nous explique que là, c'est différent, qu'il n'a pas à faire le pivot, mais qu'il est aussi entouré d'autres joueurs, sûrement meilleurs. Et le pivot gang, il amène à un changement de système de Galtier pour faire plaisir à monsieur. L'équipe tourne bien à ce moment-là. Alors, l'équipe, elle tourne bien, peut-être parce que c'est le mois d'août et tout. Hein. Mais en tout cas, à partir de ce match-là, il faut changer le système pour faire plaisir à monsieur. OK. Donc, ce n'est pas l'équipe qui est importante. Il y a le fameux « si je voulais la Ligue des Champions, je ne serais pas là ». Bon, tout ça, je rappelle, hein, c'est tranquillement. Tranquillement, et personne ne dit rien. Mais évidemment, il a raison. Il a raison de dire ça. Bien sûr que s'il voulait la Ligue des Champions, il ne serait pas là. Bien sûr que le pivot gang, il n'a pas à faire le pivot parce que monsieur est un magicien et un des meilleurs joueurs de l'histoire, de l'univers, du monde du football. Bref, on continue. Et puis là, on arrive à Monaco. Alors là, c'est le festival. Il arrive avec des lunettes de soleil. Bon, en plus, elles sont horribles, mais ça, c'est juste une question de goût. Il arrive au stade avec ses lunettes de soleil, avec sa démarche, là. Insupportable. Il sort. Et là, il sort du vestiaire. Le show, il commence au vestiaire. Il sort du vestiaire, il serre la main à des gens avec un petit sourire. Et regardez bien la scène où il fait une tête de « Non, ça va, c'est cool, ouais, c'est cool. » Ensuite, il traverse le terrain, il fait un peu signe aux supporters qui acceptent tout, puisqu'ils sortent même le drapeau à son effigie. Il fait tranquillement le tour du stade avec une démarche. Bon, je n'ai même pas envie d'en parler parce que je vais déraper. Il prend des photos, il monte en tribune comme un mec de district qui est énervé d'être sorti et qui va rejoindre ses potes dans la tribune. Il était capitaine. Et là, il se met au téléphone, il fait des sourires genre à la cool, quoi. Moi, je suis en mode décontract, j'en ai strictement rien à foutre. Il y a des mecs qui jouent, là. C'est qui les mecs qui jouent sur le terrain? Parce que pendant qu'eux, ils jouent, moi, je suis en train de faire mon show. Mais c'est quoi? Mais en fait, je peux même plus dire casse-toi parce qu'on sait qu'ils se cassent. Et tant mieux! Mais c'est un scandale. Et si c'est pas Mbappé, dans les médias, dans les supporters, sur les réseaux sociaux, on le défonce. On le défonce. Mais là, il y a des médias qu'il faut défendre Mbappé. Alors maintenant, c'est Luis Enrique le coupable. Luis Enrique, je rappelle que depuis 2 ans, et même plus d'ailleurs, on nous explique que l'entraîneur du PSG n'a pas les couilles de faire des choix, qu'il est pris par la direction. Et quand il fait des choix, on nous dit que c'est un tocard, que c'est une mauvaise personne, que c'est un scandale. Comment ? Et écoutez bien, parce que c'est là l'apothéose du truc. Comment il humilie Mbappé. Non, mais vous avez pété les plombs. Voilà, vous avez pété les plombs. Il humilie Mbappé. C'est ça, une humiliation. Alors déjà, on va falloir reprendre les termes du dictionnaire parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Un mec qui est remplacé, il n'est pas humilié. Mais il est humilié par Luis Enrique. Mais en fait, les gars, juste une chose. Est-ce que vous... Parce que tous ces médias-là, ils sont dans le sport et dans le football depuis des années. Donc, moi, je vais leur expliquer un truc. Est-ce que vous pouvez comprendre que oui, il y a un enjeu économique et qu'à un moment donné, même si ça nous fait chier, oui, il y a à un moment donné, un club qui peut dire à un coach, il doit jouer parce qu'en plus, il y a peut-être une chance de le prolonger encore. Donc, il doit jouer. Maintenant, il a dit, je pars. Eh bien, c'est un joueur lambda. S'il n'est pas bon, il sort comme les autres. Voilà. Et sa première mi-temps à Monaco, elle est scandaleuse. Scandaleuse dans l'attitude. Les frappes forcées, les frappes à l'arrêt, les passes ratées. Mais il est capitaine, lui. Lui, il était capitaine. C'est à lui qu'on donne le brassard. C'est lui qui a demandé un nouveau vote secret pour être capitaine. Mais t'es pas un capitaine. T'as un manque de respect. Et la dernière chose, et je finis là-dessus. Est-ce qu'on a le droit à un moment donné, parce que évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, le club est coupable. Mais est-ce qu'on a le droit, nous, de se dire, bah, Kylian Mbappé, tout enfant gâté qu'il est, est-ce qu'il a le droit d'être intelligent pour dire, je vais finir la saison le mieux possible, je vais quand même pas encore une fois, jusqu'au bout, manquer de respect à tout le monde, aux supporters, aux maillots, au club, ce faux amour du maillot là. Est-ce que j'ai le droit de bien finir la saison et de me comporter comme il faut professionnellement quand on m'a donné 100 millions que tu n'as pas volé, le club te les a donnés. Mais est-ce que tu as le droit d'être assez intelligent pour ne pas faire ton cinéma et pour te comporter normalement? Ben non, c'est de la faute de Luis Enrique et du club si le mec à 25 ans se comporte comme ça. Mais cassez-vous tous, les journalistes, les médias, les joueurs, tous, vous pouvez tous partir. Arrêtez votre métier parce que vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des suiveurs d'un clan. Vous avez pris des coups de pression. Vous avez des préjugés parce que le Qatar, parce que Luis Enrique, c'est un entraîneur étranger, etc. Mais cassez-vous tous. De toute façon, on n'en a rien à foutre de vos avis. Voilà.
Bravo.
Voilà, merci. Bravo. On peut applaudir, je pense. Bravo, Yacine, pour cette intervention.
Il était calme, en plus.
Franchement, c'était tacle à la régulière. Moi, j'ai trouvé, Yacine, t'as été très bien.
Hugo.
Je pense qu'il y a, de toute façon, je lis les avis hein, sur le live. Là, il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec toi, Yacine. Et évidemment, bon, alors, moi, je ne te rejoins pas sur la fin, sur les médias, etc. Mais sur tout le reste, oui, bien sûr. Et que tu as entièrement raison, Yacine.
Hugo, juste. Rio oui. Mavuba et Eric Rabessandratana, oui. Ce sont les seuls qui ont eu des avis nuancés et mesurés.
Et alors, pourquoi tu as des ballons qui sont passés au-dessus de toi?
Je ne sais pas.
Je sais pas, c'était ton. C'est pas moi. Le logiciel narratif qui.
Ouais, j'ai dû dire un truc et.
Clément, tu levais le doigt.
Ouais, non. Yacine, il a souligné un truc qu'on avait oublié de dire. C'est que vendredi, il avait le brassard de capitaine, Mbappé. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça confère une dimension incroyable à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un capitaine, mais moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Pour un joueur lambda, mais pour un capitaine. Et franchement, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais je sais pas comment ce mec peut reporter un jour le brassard du capitaine du PSG avec ce qui s'est passé. Même au Parc des Princes pour la dernière journée, les au revoir, machin et tout. Mais franchement, s'il y avait eu, je sais pas, un Zlatan sur le banc ou un mec comme ça, mais je pense qu'il prenait une gifle dans le vestiaire.
Hein. Hugo, juste un truc. Parce que ouais, les supporters d'Mbappé, ils aiment la comptabilité. D'accord ? Donc je l'ai fait vite fait. Hein. Ça va en prendre 30 secondes. Entre 2012 et 2016, le PSG gagne 4 championnats, 2 Coupes de France. D'accord ? Ça fait environ 1,5 titres par an. J'ai enlevé la Coupe de la Ligue. Entre 2017 et 2024, le PSG gagne 4 Coupes de France, 5 championnats. Ça fait 9 sur 7, ça fait 1,3 titres par an. Donc, tu gagnes moins de titres avec Mbappé, qui, il paraît, te sauve de tout, etc. Sur Zlatan, d'accord ? Parce que là aussi, les buts, il est meilleur buteur de l'histoire. Heureusement, il est resté 7 ans. Donc, Zlatan, 180 matchs, 156 buts. Moyenne, 0,86. Mbappé, 248 matchs, 223 buts. Moyenne, 0,89. Bon, on n'est pas non plus sur un gouffre. Et en Ligue des Champions, en phase d'élimination directe, là où Zlatan était éclaté, il paraît. Il disparaissait tous les ans. Donc, Zlatan, 6 buts en 4 ans, à partir des 8e de finale. Mbappé, 10 buts en 7 ans. Pour l'instant, j'ai compté celui de la Real Sociedad à l'aller. On est donc sur une moyenne de 1,5 pour Zlatan et 1,42 pour Mbappé. Donc, même dans la comptabilité, vous ne pouvez même pas nous mettre à l'amende. D'accord ? Donc, arrêtez vos conneries un petit peu. Ouvrez les yeux. Et l'histoire de
Mbappé, s'il n'était pas là, s'il n'était pas là, ben ouais, s'il n'était pas là, je pense qu'il y aurait une autre équipe, il y aurait un autre état d'esprit, etc. Bref, voilà.
Nico, vas-y.
Alors déjà, j'aimerais rassurer les gens qui nous écoutent. Yacine nous avait dit que le week-end allait l'apaiser, donc vous le voyez, là, il est très apaisé, il n'y a pas de souci. Ensuite, ensuite, il y a, bon, il a dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur tout, mais il y a quand même un truc, moi, qui me choque, effectivement, c'est le traitement médiatique de Mbappé. Et j'entends souvent des gens dire, oui, mais Mbappé, son clan, il est protégé parce qu'il y a des intérêts. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose, pour avoir connu un petit peu cet univers pendant plusieurs années, j'avais du mal vraiment à penser à ce point que ça pouvait effectivement arriver. Aujourd'hui, la réaction des médias depuis vendredi, c'est vrai qu'elle est lunaire. Et alors, ceux qui travaillent encore dans les médias actuellement, je comprends que ce soit plus délicat pour eux de le dire. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je vais pouvoir le dire ouvertement. Il y a très clairement dans ce dossier des conflits d'intérêts pour les médias. C'est une évidence. Tu vois, je ne vais pas donner de nom en plus parce que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais quand tu as des mecs qui te réclament depuis 2, 3, 4 ans une institution forte, même si j'aime pas le mot institution, mais un cadre collectif, un cadre de travail, un respect du club, des joueurs qui sont en dessous de l'entraîneur, l'entraîneur en dessous d'un président, donc une hiérarchie claire. Ces mêmes personnes-là qui, dès vendredi soir, expliquent que Luis Enrique a créé un crime sans précédent, qu'on n'a jamais vu un entraîneur oser sortir un joueur de la trempe d'Mbappé. C'est grave parce qu'en fait, ces médias-là, qui sont quand même très suivis, ils diffusent cette idée en fait que le PSG, et en l'occurrence Luis Enrique, est dans le tort, qui fait des erreurs. Mais en fait, Luis Enrique, et ça fait longtemps qu'on attend ça au PSG, il se comporte comme un entraîneur. Et si on est honnête, voir Mbappé remplacé à la mi-temps ou en cours de match, on aurait dû le voir depuis beaucoup plus longtemps.
Exactement.
Sportivement parlant, Mbappé a fait quand même de nombreux matchs pourris. Alors, il y a toujours cet argument de dire, ouais, mais ce genre de joueur, il peut te sauver à tout moment. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, contre Rennes, c'est Ramos qui sauve le PSG et c'est pas Mbappé. Donc, il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir ce rôle-là. Et puis surtout, tu ne peux pas demander à un club fort et un collectif apaisé avec un joueur qui a un tel traitement de faveur. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que les médias semble complètement ignoré, ou du moins ils le savent, mais ils ne le disent pas clairement, c'est que évidemment que Luis Enrique n'avait pas les coudées franches pendant ses premiers mois pour faire ce qu'il voulait. Tu es en discussion avec Mbappé pour prolonger, c'est quand même un énorme enjeu financier et sportif. Évidemment qu'on a dit à Luis Enrique, bon, bah, il va falloir faire avec Mbappé et ménager ça. Le repositionnement d'Mbappé, quelque part, moi je l'ai senti comme un désaveu de Luis Enrique sur la manière de le gérer. C'est-à-dire que Mbappé numéro 9, c'est évidemment pas le projet de départ de Luis Enrique, sauf qu'il ne peut pas le sortir, donc bah, il le met là parce que c'est là où il déséquilibre au moins son équipe. Aujourd'hui, Mbappé, je ne veux pas dire un joueur lambda, parce que ça ne veut rien dire un joueur lambda, mais c'est un joueur comme les. Oui, c'est un joueur comme les autres aujourd'hui dans l'effectif, puisqu'en plus il s'en va. Et c'est même, à mes yeux, et je l'avais dit dès qu'il avait annoncé son départ, c'est même plus un joueur comme un autre. C'est un joueur qui ne s'inscrit plus dans ton projet. Et moi,
Alors,
ça ne me choque
ouais.
pas aujourd'hui. Excuse-moi, Hugo. Je
Non,
termine
vas-y.
vite rapide. Ça ne me choque pas, et je l'avais dit, qu'une fois que les objectifs du club collectif auraient été atteints, qu'un Mbappé prenne beaucoup plus de place sur le banc que sur le terrain, c'était pour moi normal. Ramos, il sera là l'an prochain. Colomwani sera là l'an prochain. Tu as besoin de les faire jouer tout de suite, de commencer justement à travailler tout ça. C'est super hypocrite ce que disent les médias quand ils entendent dire Luis Enrique dire il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui. Ils trouvent ça super hypocrite, mais c'est tellement vrai pourtant. Évidemment, c'est vrai. Et en plus, dans cette situation, ils occultent complètement, encore une fois, les performances d'Mbappé. À Monaco, il le dit Yacine, la mi-temps de Mbappé, elle est atroce. Elle est horrible. Il n'y a rien, il n'y a pas d'envie, il rate tout. Et en plus, il ne travaille pas défensivement alors qu'il est dans le couloir gauche. Le sortir à la mi-temps, c'est tout à fait normal. Et comme tu l'as dit, Clément, tu mets Neymar à la place de Mbappé vendredi soir, mais tous les médias, depuis 48 heures, ce serait mais une ça aurait été mais une boucherie sur Neymar. Et à juste titre, comme ça aurait dû être une boucherie sur Mbappé. Donc évidemment que ce côté média protecteur du clan Mbappé, parce que Mbappé, dans 10 ans, il sera encore là, que c'est le capitaine de l'équipe de France, que ça va être l'élément central du foot français pendant 5 ans. Tu sens les mecs qui protègent un petit peu leur futur, hein. La prochaine interview d'Mbappé, il faut l'avoir dans ton média. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage tout ça, mais je pense que les gens quand même ne sont pas dupes.
Hugo,
Alors, ouais, et après je passe pour avancer dans le. Non, mais on restera sur cette partie, mais j'aurais une autre question à vous poser, vas-y.
Il y a une chose que j'avais oubliée, c'était évidemment l'attitude sur la non-passe de Vitinha.
parce que c'était quand même aussi du jamais vu, un mec qui s'arrête au milieu de terrain, qui arrête l'action. Il arrête l'action, il s'arrête au milieu de terrain, parce qu'on lui a pas donné, parce qu'on lui a pas fait une passe. Et il s'arrête complètement. Et l'action, rappelez-vous, elle va jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que s'il avait fait une course, peut-être qu'il est à la réception. Il en avait plus rien à foutre. L'impact que ça a, encore une fois, pas de problème. Les Vitinha, les Ruiz, ça a zéro caractère. J'ai pas de problème avec ça. Je l'ai déjà dit. Mais l'impact que tu as, puisque tu te prends pour un leader, sur ces joueurs-là, tu vois, finalement, tu es en train de leur mettre un coup de pression devant tout le monde. Bref. Et je veux finir sur un truc parce que j'entends beaucoup de il doit être sur le banc, il doit être en tribune, etc. Moi, j'avais dit dès le début de l'année, si vous le mettez dans l'offre, mettez-le toute l'année, on n'en parle plus. Maintenant, alors évidemment, hein, il y a le droit, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, et ça, c'est très compliqué à gérer. Maintenant, Mbappé, aujourd'hui, il reste 3 mois. Dans l'absolu, tous les supporters, là, un peu comme ça, on a envie de dire mets-le sur le banc et tant pis pour lui. Moi, je vais dire une chose là-dessus. C'est un joueur qui est payé. Donc en fait, et ce que fait Enrique, moi j'aime bien pour ça, c'est un joueur qui est payé par le club, il a un très gros salaire, il reste 3 mois. Mais en fait, c'est simple. Aujourd'hui, maintenant, t'as envie de te plier aux consignes du collectif, aux règles, etc. De respecter le jeu. Tu joues, tu fais ce que t'as à faire jusqu'au 30 mai. Si t'as pas envie de te plier, bah oui, à la mi-temps, tu sors. Voir le match d'après, tu le démarres sur le banc. En fait, tu deviens un joueur normal. Il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « mettez-le en tribune jusqu'à la fin de l'année » parce que déjà, dans plein de clubs, je n'ai jamais vu ça. Et ensuite, à partir du moment où tu payes quelqu'un, bah, tu as le droit de t'en servir, c'est tout. Maintenant, tu as le droit de t'en servir quand il se pliera aux règles. Voilà.
Justement, bah, c'est la question, Yacine, que je voulais poser. Donc, je vais venir voir Clément. Clément, alors, je vous dis quand même la déclaration de Luis Enrique après le match contre Monaco. Évidemment, on l'a interrogé sur le fait qu'il avait sorti Mbappé à la mi-temps. Et il a répété un peu ce qui le... Martel en compte depuis déjà plusieurs matchs. Hein. Tôt ou tard, il faudra s'habituer à jouer sans Kylian. J'essaye de trouver la meilleure option pour l'équipe, l'option que je pense être la meilleure. Peut-être que j'ai tort ou pas, qui sait, je dois prendre des décisions tout le temps. C'est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l'équipe. Je ne veux pas polémiquer, c'est ma décision. Clément, comment du coup gérer, Yacine a commencé à en parler, mais comment gérer justement les 3 mois qui restent de contrat? Est-ce que toi, tu es dans la team, il faut le faire jouer puisqu'il est sous contrat et que Mbappé, tu ne peux pas te passer non plus parce que c'est un joueur décisif dans les gros matchs. Et donc, tu ne peux pas te passer lui pour la Ligue des Champions, par exemple, ou même voir la Ligue 1, même si tu as de l'avance sur Brest, le deuxième. Ou alors, tu penses comme un peu Nico qu'il faut préparer la saison prochaine.
Bah, en le mettant déjà, sur le banc. Moi, je pense pas vraiment... Je pense pas par rapport à Mbappé, en fait. Je pense par rapport au PSG à l'instant T. Et ce que je peux te dire avec quasi certitude, c'est que si Mbappé il mettait 2 buts par match et qu'il était super bon, il sortirait pas. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc c'est pas un règlement de compte comme certains veulent le faire croire de Luis Enrique ou du PSG envers Mbappé. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, Luis Enrique il est dans une démarche où certes il y a eu l'annonce de Kylian de son départ, mais il est dans une démarche comment avoir la meilleure équipe sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai une équipe à préparer, je veux être performant, il n'y a plus de statut, enfin en tout cas, Mbappé n'est plus au-dessus des autres. Voilà, s'il est bon, vu que c'est un super joueur, intrinsèquement, bah, il joue, mais vu que ça fait, je vais être gentil, mais ça fait depuis début janvier que c'est cata, je pense qu'on pourrait remonter un peu, mais on va dire début janvier, et ben maintenant, il sort à la mi-temps. Donc voilà, après, j'ai pas envie d'empiéter sur le débat suivant du match de demain, mais moi si je suis Luis Enrique, je ne le mets pas en tribune, ça a aucun intérêt. Comme l'a dit Yass, il est payé. En plus, faut quand même tenir un vestiaire. Hein. Il y a quand même l'équipe du vestiaire auquel il faut penser. Il peut te saccager un vestiaire. On rappelle qu'il a fait venir toute sa clique cet été au mercato. Ce serait quand même con d'avoir un vestiaire qui part à volo au moment où les grandes échéances arrivent. Et en même temps, à contrario, je le traite comme un joueur normal, c'est-à-dire comme ce que Luis Enrique est en train de faire. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le vestiaire, en tout cas dans les choix sportifs de Luis Enrique, Mbappé il a la même place que Kolo Muani, pour moi. D'ailleurs, le changement l'illustre bien à la mi-temps. Il sort Mbappé, il fait rentrer Kolo Muani, qui est pas bon, en ce moment. Donc voilà, moi je le gère de manière tout à fait normale à sa place. D'ailleurs, Luis Enrique... Bon, pour le coup, c'est aussi pour ça, en parenthèse, que les journalistes et les médias, enfin, beaucoup de médias et de journalistes, sans faire d'amalgame sont plus en faveur de Mbappé et tacle beaucoup Luis Enrique, c'est qu'il est, c'est pas un bon client. Enfin, en tout cas, il est pas très, très friand des conférences de presse, des journalistes. Donc, en plus, ça accentue la dualité entre le clan Mbappé et Luis Enrique aux yeux de beaucoup d'observateurs. Donc voilà, Luis Enrique aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il met pas trop d'huile sur le feu en conférence de presse quand on l'interroge. Il essaye de botter en touche en disant c'est mes choix sportifs. Et en même temps, il distille quelques messages. Ouais, moi, je suis sûr que l'année prochaine, à tous les postes, on sera meilleur. Voilà, ça, c'est les petits messages où il dit, voilà, Mbappé, pas Mbappé, peu importe. Je suis sûr qu'on va s'améliorer avec le temps. Donc moi, je la gérerai comme ça. Je la gérerai pas de tribune, ça sert à rien. Mais statut égalitaire. Et si le mec est pas bon, il est sur le banc.
Je lis juste quelques réactions, Nico, et je te laisse reprendre et développer sur les commentaires de vous qui me suivez, qui est dans le chat. Alors, vous êtes quand même majoritairement, vous pensez un peu pareil que les gens, les chroniqueurs du jour sur le cas Mbappé. Par exemple, je peux prendre un avis, notamment de Logan Comtois. Dans quel club on prépare? Alors, lui, pour le coup, il n'est pas d'accord. J'ai pris un commentaire, le seul qui n'est pas d'accord, je crois. Logan Comtois, il dit dans quel club on prépare la saison prochaine en mars? Nulle part. S'il avait l'intention de rester buteur ou pas, il serait maintenu sur la pelouse. Les remplacements, c'est de la com. On a un Ginny Cop qui nous dit « Il ne s'inscrit plus dans la durée. T'es bon, tu joues. T'es pas bon, eh ben, on te met sur le banc. » Il y en a qui disent qu'il doit être, titulaire en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, on doit préparer la saison prochaine. Voilà, vous êtes assez d'accord sur la gestion que doit faire Luis Enrique du cas Mbappé. Nico, je te laisse développer sur le sujet.
Non, juste deux, trois précisions. Quand on dit qu'il ne fait pas une belle saison, on a souvent tout de suite l'argument de la stat qui nous ressort à pleine tronche. Les gens ne sont capables que d'afficher ça. C'est complètement stupide cet argument, parce que imaginons que le PSG l'ait emporté 1-0 à Monaco à la 90e sur un but venu de nulle part. Personne n'aurait dit que le PSG a fait un bon match, juste parce que tu as gagné. Le PSG a quand même fait un match vraiment très très moyen. Donc quand on dit qu'Mbappé ne fait pas une bonne saison, moi, je parle d'une manière un peu plus globale, d'une manière collective. Est-ce qu'il s'inscrit dans le projet de jeu mis en place par Luis Enrique? Est-ce qu'il travaille bien avec les autres? On le voit bien que ce n'est pas le cas. Quand il jouait côté gauche, il courait 8 km par match, quand Mbappé en faisait 12. Donc voilà, après, c'est très factuel de se rendre compte que Mbappé, collectivement, il a posé un gros problème à cette équipe du début à la fin. Donc c'est la première chose. Après, là, on tombait beaucoup sur Mbappé. Moi, j'en veux aussi quelque part à Luis Enrique et à la direction du PSG. Il ne faut pas croire, encore une fois, que tout est sur le dos de Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, on tombe sur lui parce que le comportement de Monaco, voilà. C'est lui qui l'a et c'est lui qui se rend détestable. Mais moi, Luis Enrique, je lui en veux un petit peu parce que quand il est arrivé au PSG, il nous a expliqué que voilà, il prendrait les décisions qui décideraient juste et que personne ne lui dicterait rien. On se rend compte encore une fois que jusqu'en février, il ne pouvait pas avec Mbappé le traiter comme les autres. Donc ça, quelque part, je trouve que c'est dommage.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème, Nico. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, enfin, on développe sur le fait que Luis Enrique enfin le change. Mais ça, au début de saison, quand il nous a dit en conférence de presse, je ferai les choix que je veux, etc., c'est pas vrai. Comme les anciens coachs qui nous disaient, on fait ce qu'on veut sur le terrain, on décide de qui on veut, c'est pas vrai. Ce qu'on dit depuis des années dans le podcast, c'est.
Tant qu'il pouvait prolonger.
Nos suiveurs, voilà. Tant qu'il pouvait prolonger et continuer au PSG, l'entraîneur n'avait pas les mains libres.
Bien c'est sûr. Ça, mais ça aujourd'hui tout le monde le sait et quelque part voilà, moi par rapport à Luis Enrique, je lui en veux un petit peu, même si encore une fois il y a une hiérarchie, il y a une autorité au-dessus de lui et voilà, il a dû se plier comme l'avait fait Pochettino ou Galtier avant lui. Et puis j'en veux évidemment, et il faut pas croire qu'on occulte ça, j'en veux évidemment à la direction du PSG, mais même pas que depuis là ces derniers temps, j'en veux à la direction du PSG depuis 2019 quand Mbappé fait sa première sortie sur ses responsabilités au trophée UNFP. Depuis 2019, voilà, c'est un joueur qui a pris du pouvoir au fur et à mesure, qui a éteint les dirigeants. Avec son clan, ils ont commencé vraiment à avoir les choses en main. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens sont choqués de ce qui se passe par rapport à Mbappé, mais ne l'ont pas été avant quand Mbappé a pris 70 millions par an, quand sa famille s'est retrouvée au centre de tout, quand on a fait jouer son frère pour son anniversaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, quoi. Cadeau d'anniversaire d'Mbappé, on lui a offert 20 minutes avec son frère en pelouse, sur la pelouse. C'est mythique. Et puis évidemment, voilà, le recrutement avec, enfin, il a nommé un directeur sportif, enfin tout, voilà. Moi, j'en veux évidemment au PSG par rapport à tout ça, parce qu'on s'est mis à quatre pattes devant un joueur. Et quand je dis aujourd'hui que moi je suis soulagé que ce joueur s'en aille, c'est pas de la rancune, parce que je le redis, c'est un très grand footballeur et que je suis sûr qu'il fera des belles choses à Madrid, tant mieux pour lui. Mais le PSG aujourd'hui n'est pas un club qui est organisé structurellement pour gérer ce genre de joueurs. On l'a vu, on n'a pas su gérer Neymar, on n'a pas su gérer Messi, on n'a pas su gérer Mbappé. Voilà, le PSG aujourd'hui n'est pas capable de gérer ce genre de joueurs, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas compris qu'on ne pouvait pas accéder à toutes leurs demandes. Et bah, tant qu'on n'est pas capable de gérer ce genre de profil, bah, moi, je suis très content de voir qu'on va partir sur des joueurs plus modestes, avec moins d'impact médiatique, avec peut-être moins de talent individuel, mais qui permettront de rentrer dans un moule collectif. Et à l'arrivée, on aura peut-être l'an prochain une équipe qui jouera comme Leverkusen cette année, avec des joueurs peu cotés, mais avec un collectif qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est juste ce que je dis par rapport à Mbappé.
Clément, et dernière question sur le cas Mbappé, après on passera à la projection demain sur la Real Sociedad, il nous restera un quart d'heure dessus. Lelouch qui nous dit en commentaire, et je trouve ça intéressant, et ça a été aussi dit, ça a été évoqué, est-ce que les autres clubs auraient agi d'une manière différente avec Mbappé dans ce cas-là? Est-ce que s'il était déjà au Real, est-ce qu'il se permettrait ça? Est-ce que s'il était... Alors, je vais pas dire juste l'institution Bayern, parce qu'il y a des exemples récents qui montrent que le Bayern, hein, ça, c'est plus ça depuis un petit moment. Le cas Neuer qui se pète au ski pour 10 mois alors que c'est interdit dans son contrat d'en faire. Sadio Mané qui met un coup de tête à Leroy Sané. Imaginez si Mbappé ou j'en sais rien, ou Neymar, il met un coup de tête à un coéquipier, la déflagration que ça aurait été. Donc je veux dire que par là, qu'au PSG, il y a des problèmes, mais il y en a aussi dans d'autres clubs. Voilà.
Juste, après, Hugo, pour le Bayern.
Alors, historiquement,
c'est comme ça le Bayern. La différence, en fait, c'est qu'il y a des problèmes au Bayern depuis longtemps. Si c'était surnommé le FC Hollywood, c'est qu'il y a une raison. C'est juste qu'ils gèrent les problèmes différemment. Des problèmes, il y en a partout. C'est juste comment tu les gères, en fait, la différence.
Bah, en ce moment, c'est, je suis d'accord. Quand il y a des problèmes, ils ont bien géré. Mais là, quand tu vois Thomas Müller, la sortie qu'il fait sur Thomas Tuchel à la fin, là, quand il perd contre Bayern Leverkusen, il dit « il n'y a pas de plan de jeu, on ne peut pas se projeter, on n'est pas libre dans nos mouvements ». Mais imaginez si un joueur il dit ça de l'entraîneur du PSG. Enfin, on en parlait autant, quoi, parce que Thomas Müller, sa sortie pour le coup. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel ne sera plus le coach du Bayern en fin de saison. Donc, c'est dire aussi le poids des joueurs qu'il y a au Bayern. Hein, Thomas Müller, pour ne citer que lui, ils ont du poids dans le vestiaire. Clément.
Non, je suis assez d'accord avec Yass sur la gestion. Je pense que des problèmes, il y en a dans chaque vestiaire. On l'a vu ces dernières années. Maintenant, il y a aussi ce que les joueurs se permettent de faire. Et... En l'occurrence, si je prends l'exemple, bon bah le nôtre là de Mbappé qui va aller au Real, je veux pas être présomptueux ou écrire l'avenir, mais je suis quasi sûr à 99% que jamais il se permettra de faire quelque chose comme ça au Real, qui plus est avec Ancelotti sur le banc, parce qu'on sait tous qu'Ancelotti a plutôt une gestion du vestiaire et des joueurs phares assez exemplaires et assez même bluffantes. Donc je pense que jamais il ferait ça au Real. Je pense que c'est aussi une question de dimension, de statut qu'on confère à certains joueurs. Il y a évidemment le club, la dimension du club. C'est pas pareil si tu joues sans manquer de respect à Saint-Etienne ou à Real Madrid. Mais il y a aussi ce que tu leur dis, ce que tu leur offres, ce que tu leur permets de faire au quotidien, comment tu les places. Et je pense que Mbappé, en l'occurrence au Real Madrid, je crois qu'on en avait déjà parlé, peut-être pas en émission, mais ailleurs, il va arriver dans un vestiaire. Je pense que même face à des Carvajal, face à des mecs comme ça, il va se taire, il va s'écraser et il va bosser, quoi. Parce que même un Bellingham qui est jeune, mais qui a un an de plus, qui a déjà prouvé au Real Madrid, il ne laissera jamais Mbappé lui marcher dessus comme ça. Mais
comme au PSG, Hugo, Clément. Au PSG, les premières années d'Mbappé, il n'y a pas de problème quand il arrive. Il se met au service de Neymar, tu as vu dans sa déclaration. Il va faire la même chose à Madrid. Évidemment que les deux premières saisons à Madrid, on va avoir un Mbappé dans le rang. Le souci, c'est qu'à partir du moment où le club a commencé à lui donner un peu plus de pouvoir, c'est là où tu peux te mettre en danger et c'est là où le PSG n'a pas su gérer la chose. Ouais, le Mbappé jusqu'en 2019, moi, il ne me pose aucun problème de discipline, de comportement. Ouais. Enfin, c'est
non, un joueur lambda. Je pense pas que ce soit possible. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que même sur la durée, dans un club comme le Real, il y a des cadres qui sont toujours plus nombreux. Il y a un effectif très jeune au Real. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des mecs comme Valverde, comme Vinicius, comme Bellingham, ils seront encore là quand Mbappé sera là.
Mais quand ce sera lui le cadre, Clément ? Regarde en équipe de France. En équipe de France, oui, il commence à le faire. Les problèmes
aujourd'hui,
avec.
Aujourd'hui, c'est le seul cadre au PSG, quasiment. C'est le seul cadre. Au Real, je pense que jamais ce sera le seul cadre. Il y aura toujours. Enfin, je pense que aussi, c'est la force de ce club. On ne va pas faire un Real United, mais. Je pense que la force de ce club, c'est de composer un effectif qui n'est jamais dépendant d'un seul joueur. En tout cas, ces dernières années, c'est ce qui s'est passé. Et puis, Puis derrière, tu as aussi, voilà, tu as aussi des, en général des entraîneurs nommés, tu as aussi des supporters et une presse qui sont beaucoup peut-être plus intransigeants que nous en France, que ce soit au stade ou dans les médias. Donc il y a un tout, je pense que c'est un tout qui fait que c'est pas possible. Après, si ça arrive, ça serait incroyable, mais si ça arrive, bah, bonne chance au Real.
En tout cas, ça sera intéressant, Nico le disait, de voir la gestion du Real Madrid sur Kylian Mbappé, justement, quand il commencera à être un élément important du club. Est-ce qu'il aura, voilà, plus de droits, plus de choses accordées que comme au PSG, ou si justement ils arriveront à mettre la barrière pour dire tu restes un joueur de l'effectif et tu peux pas avoir un statut autre que cela. Voilà pour la partie sur Kylian Mbappé et Luis Enrique. Passons désormais à la projection pour demain, puisqu'il y a un huitième de finale retour qui nous occupe évidemment l'esprit, face à la Real Sociedad. Je rappelle le score du match aller, 2-0. Match retour demain soir au stade d'Anoeta. La Real Sociedad qui n'est pas dans une grande forme. Hein. Nouvelle défaite ce week-end, 3-2 contre Séville. Depuis le match contre le PSG, c'est une victoire et trois défaites. Et si on élargit, Yacine, c'est une victoire sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a toujours des blessés qui sont parvenus pour Emmanuel Aguacil. Comment analyser cette équipe de la Real Sociedad pour le retour et par rapport aussi à ce qu'on a vu du match aller, Yacine?
Bon, ils ont quand même eu le retour de quelques blessés, alors qui n'ont pas tous joué ce week-end parce que ça a fait tourner. Comme tu le dis, hein, c'est une équipe qui ne gagne plus. Maintenant, je pense que elle s'est remise à marquer des buts. Par contre, elle en prend plus qu'avant. Comme quoi,
il y a. À un moment, ils avaient enchaîné, t'as raison, ils avaient enchaîné 4 matchs, ils ont même enchaîné 5 matchs sans marquer de but.
Ouais.
En Liga, c'était contre Vallecano 0-0, contre Gérone 0-0, contre Mallorca en Coupe du Roi 0-0, contre la Real, contre Osasuna, ils avaient perdu 1-0, et puis contre le PSG, donc défaite 2-0.
Voilà, donc en fait, ils prenaient pas beaucoup de buts, mais ils en marquaient pas. Là, maintenant, ils ont retrouvé un peu le chemin des filets, mais ils en encaissent beaucoup plus qu'avant. Je pense que c'est une équipe aussi qui va miser beaucoup sur ce match retour parce que l'entraîneur a fait tourner ce week-end. Voilà, c'est une équipe qui joue presque plus rien en championnat, qui va pas aller chercher la Ligue des Champions une année supplémentaire, qui peut pas descendre. Voilà, dans l'ambiance de leur stade, il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, faut être honnête. Si encore une fois, hein, même pas un grand PSG, si le PSG est sérieux. Déjà le PSG marquera là-bas. Alors, quand je dis marquera là-bas, c'est vrai qu'avec le but à l'extérieur qui compte plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, quand tu as gagné 2-0 et que tu marques, bon, ça veut dire quand même déjà que l'équipe adverse doit marquer au moins 3 buts. Bon, ça commence à faire beaucoup. Voilà, je pense que un PSG sérieux, c'est enfin la Real Sociedad, on en avait parlé dans le space qu'on avait fait en mois de décembre déjà. Voilà, c'est une équipe qui a des qualités, c'est une équipe qui est quand même pas un cadre européen. On savait que c'était un bon tirage. Malgré tout, à l'aller, tu as subi, alors encore une fois, pas subi des grosses occasions. Tu as subi du pressing, tu n'as pas réussi à sortir. Il y a quelqu'un qui dit, Yacine nous vend la peur. Non, justement, je ne vends pas la peur. Je pense que moi, j'ai aucune raison de craindre quelque chose demain. Maintenant, ça reste du foot. Le problème de ce PSG, on le sait, c'est pas globalement ce qu'il est capable de proposer, c'est globalement comment il réagit à un scénario qui tourne dans le mauvais sens. C'est ça le PSG. C'est-à-dire que moi, demain, le PSG, il mène 1-0 à la 35e. Je ne vois pas comment c'est possible de pas terminer le match même à 2 ou 3-0. Par contre, évidemment, tu prends un but au bout de 20 minutes. Ouais, je ne sais pas comment le PSG réagit. Parce qu'en plus, demain, Marquinhos revient.
Il y a un commentaire juste de Jimmy Mill qui nous dit « Si Donnarumma est au niveau de Monaco, on passera easy. » C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné parce qu'on n'est pas revenu vraiment sur le match contre Monaco. Mais
on en a parlé la semaine dernière déjà.
C'est quoi encore cette tenue, Nico?
J'avais promis. La fameuse licorne. Mbappé dans le groupe, les amis. Je confirme.
Ah oui, donc c'était... Ah oui, c'était ça le deal. C'était si Mbappé...
Ouais, j'avais dit que je ne serais pas dans le groupe. J'assume. Ouais.
Bon, j'ai essayé d'être concentré. T'es un homme de parole, hein. Franchement.
Je suis obligé, bravo, là, je reçois. Je ne voulais pas, mais je reçois tellement de tweets là depuis 10 minutes. Je me suis dit, bon, je suis obligé, là. Bon, allez, 2 minutes, hein, pas plus.
Tiens, je te
Moi, lance, j'aimerais parler de la Sociedad.
Ouais, bien sûr, ouais.
Je sais que ça ne va pas être très crédible, mais je vais quand même essayer de l'être. Moi, je suis inquiet sur ce match. Je vous le dis, les amis. Je suis inquiet pour au moins deux choses, trois choses même. D'abord, c'est
qu'on attends, attends, juste Nico, mais c'est vrai ou pas?
Ouais, non, je suis sérieux là. Je sais que le costume ne rend pas tout de suite le côté sérieux, mais je suis très sérieux. Donc moi, je suis beaucoup plus inquiet que Yacine, pour trois raisons. D'abord, c'est que le climat au club depuis vendredi, moi, je pense que ça impacte quand même un petit peu. Même si les joueurs aujourd'hui, c'est quand même des comportements très égoïstes et que, ouais, typiquement, je ne pense pas qu'un mec comme Dembélé ou Colomouani, ça les touche que Mbappé était sorti à la mi-temps. Ça, j'y crois pas. Le seul éventuellement qui a peut-être pas bien dormi, c'est Hakimi, parce que c'est son frère de sang, mais les autres, franchement, j'y crois pas trop. Mais il y a quand même un climat autour du club là, que t'es en train de, quand même de créer un petit peu un merdier. Après, moi, il y a quand même deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est que le PSG à l'extérieur cette saison, c'est pas bon. Vous pouvez regarder tous les matchs. Le meilleur match quasiment, c'est Dortmund, mais c'est un match qui est vraiment pas du tout maîtrisé pour le coup. C'est un match ouvert dans tous les sens. Tu peux gagner 5-2 comme tu peux perdre 4-1. Enfin, c'est un match tellement bizarre que je trouve que c'est assez inquiétant, moi, je pense, le PSG à l'extérieur cette saison. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est les matchs retour du PSG, quoi. Il y a combien de temps que le PSG n'a pas géré un match retour de Ligue des Champions avec sérénité? Honnêtement, je ne veux pas imaginer une seule seconde que le PSG va arriver sur le terrain de la Real Sociedad en étant complètement détendu, sûr de sa force. Tu prends le premier but, derrière tu pars en couille dans tous les sens, quoi. Et moi, par rapport à ce qu'on a vu dans les huitièmes de retour de Ligue des Champions, alors, même si c'est sûr que quand tu affrontes le Real, c'est pas comme quand tu affrontes la Sociedad, mais je vois pas aujourd'hui qui peut être super rassuré par ce match, parce que le PSG à l'extérieur plus Ligue des Champions match retour, c'est quand même ultra flippose. Donc bon, Clément, arrête de rire. Et donc voilà, moi je suis inquiet, et honnêtement je suis vraiment inquiet, je déconne pas, hein.
Et Nico, il va me retourner parce que je ne veux pas mentir. Je te jure que normalement, je suis imperturbable quand j'ai mes idées. Mais là, il vient me dire des trucs. Je me dis, non, mais en fait, c'est vrai.
Non, mais les
Il y a un commentaire, Nico, qui dit, c'est Sun Cipis qui dit, attention au caca culotte de Marquinhos si on prend un but dans les 20 premières minutes.
Ouais, je suis pas sûr qu'il joue Marquinhos. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Bah, parce qu'il revient de blessure. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Non, mais de toute façon, il y a forcément... On pensait qu'on était guéri depuis. On l'a encore vu contre le Real. Je ne parle même pas du Bayern l'an dernier, parce que le match aller-retour du Bayern, on aurait dit à chaque fois une équipe de National 2 contre une Ligue 1 en Coupe de France. On avait été vraiment très, très faible. Mais voilà, honnêtement, à part. Tu as souvenir d'un match retour où tu arrives en étant serein, à part Dortmund, où ils avaient été très bons au parc l'année où ils gagnent, où on se qualifie l'année Covid. Mais sinon, un match retour où tu arrives avec des buts d'avance et où ça se passe bien, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi.
C'est vrai qu'en plus, même le Barça, tu te rappelles le Barça qu'on...
Mais le Barça, il était horrible.
Le match retour, si Navas, il ne sort pas le pénalty, il peut encore mal tourner, quoi.
Bah, tu peux te retrouver à 1-3 à mi-temps, ouais. Ouais, alors que le match, Non, moi, je suis vraiment inquiet. Et comme tu dis, Hugo, si la Real Sociedad ouvre le score en première mi-temps, oh là là, mais ça va être ça va partir dans tous les sens. Ils vont tous commencer à flipper. Donc, non, le seul qui, à mon avis, prend ce match avec sérénité, c'est Luis Enrique, parce que lui, il est habitué. Et lui, en plus, il a toujours dit cette saison que la Ligue des Champions, c'était un objectif important, mais pas prioritaire. Mais les joueurs, évidemment, qui vont flipper. Franchement, cette équipe, elle n'a aucune sérénité. Moi, je suis pas du tout rassuré, moi.
En tout cas, alors, bravo, Clément. Nico, parce que sur le chat, tu as réussi à retourner les gens. Ils sont en stress maintenant.
Tout le monde flippe. Moi, je suis désolé. Je suis désolé.
Non, mais je pense que c'est plus le costume de licorne qui fait flipper, hein, que le scénario.
D'ailleurs, putain, j'ai chaud là-dedans. Pouah.
Non, mais dis-moi, Nico. Déjà, où tu te procures un costume de licorne?
Bah, tu sais, moi, j'ai tout un matériel. Je ne vous ai pas tout sorti encore. Hein. Yass, il peut encore faire 4-5 coups de gueule avant la fin de la saison. Je peux encore vous surprendre.
Parce que tout à l'heure, tu étais en soldat. La dernière fois, tu as toujours un équipement pour adapter à la situation, quoi.
T'inquiète.
Bon, je sais que tu nous... Si Paris est éliminé, je ne sais pas dans quelle tenue tu vas arriver pour le podcast de débrief.
Ah, peut-être que je ne serai pas là mercredi si on est éliminé.
En plus, ça n'assume pas. Bon, parlons quand même du sportif, Clément. On voulait évoquer cette question. Quel 11 pour le retour? Alors, justement, j'avais Nico parlé de Marquinhos. Lui qui est absent depuis 15 jours pour une blessure au mollet, il a repris en partie l'entraînement collectif. La tendance est positive pour faire le déplacement mardi à Anoeta, nous dit l'équipe. Danilo Pereira, lui, est encore resté en salle et aucune décision n'a été prise pour le Portugais. Je vous rappelle le 11 du Parisien à l'aller, Clément. C'était Donnarumma, évidemment, dans les buts. Beraldo, Danilo, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery, Barcola, Mbappé, Dembélé. Quel 11, en fonction des, voilà, des blessures de chacun et des méformes, tu mettrais, toi, Clément, si tu étais à la place de Luis Enrique?
Tu veux le 11 que je pense que Luis Enrique va mettre ou le 11 que moi, j'aimerais?
Non, le 11 que toi, t'aimerais.
Bon.
Keylor Navas dans les buts?
Non, Donnarumma. si on tient compte, si, dans la même logique que Mbappé tout à l'heure, si on tient compte de la forme du moment et de la dimension purement sportive, je ne suis pas sûr de mettre Marquinhos. Que je trouve, bon, il y a évidemment, elle est forcément prise en compte, la dimension psychologique, mentale, parce qu'il est fragile, on le sait, on ne va pas revenir dessus. Après, il y a aussi, on n'a pas l'embarras du choix en défense, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire? Sur les côtés, ce sera Hernandez et Hakimi. Dans l'axe, Beraldo jouera, a priori. Beraldo jouera, est-ce que ce sera avec Marquinhos remis ou est-ce que ce sera avec Mukiele, puisque les deux sont blessés, enfin Danilo et Marquinhos. Voilà, c'est la question, je pense que c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ce sera Marquinhos ou Mukiele. Après, en milieu, il va mettre Ruiz, Vitinha et Zaïre. Moi, je mettrai Ugarte à la place de Ruiz. Je mettrai Ugarte parce que c'est un match, comme Nicolas dit, qui peut jouer un peu à la dimension psychologique, un peu à l'impact. On est à l'extérieur, donc forcément, tu vas être un peu plus chahuté. Je trouve qu'il est, même s'il n'est pas encore parfait, il revient bien en ce moment, Ugarte. En tout cas, je le trouve un peu plus incisif défensivement. Il met le pied, il a des bonnes récupérations de balles. Voilà, avec le ballon, c'est perfectible. Mais en ce moment, j'aime bien ce qu'il montre. Donc moi, je le mettrai. A contrario, je trouve Ruiz aussi fragile. Il peut vite sortir de son match. Il peut vite, face à la pression, être en difficulté.
Dans son match, c'est déjà pas mal.
Dans son match. Et devant, je mettrai Barcola, Dembélé et Gonçalo Ramos. Puisqu'on juge à l'état de forme et on veut une équipe compétitive. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Enfin, en tout cas, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais voilà ce que je mettrai. Juste petite parenthèse, Hugo. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire qu'on avait pris un préparateur mental. C'est vrai, j'ai vu un article cette semaine dessus. Apparemment, c'est dans le staff de Luis Enrique, il y a un préparateur mental et un psychologue qui est un élément phare de son staff. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut influer sur une seule rencontre, mais en tout cas, c'est une donnée à prendre en compte aussi. Je pense que Luis Enrique, il a pensé la question.
Mais non, mais je crois que ce n'est pas un préparateur mental. Je crois que c'est un psychologue.
Un psychologue, ouais, c'est ce que
j'ai dit. Ouais, mais ce n'est pas pareil. Parce que Luis Enrique, en fait, il travaille beaucoup avec les psychologues. Il consulte et tout. C'est quelque chose de normal. Mais ce n'est pas un préparateur mental. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une légère différence. Le préparateur mental, en fait, il essaye de travailler sur... comment t'emmener au summum dans ta positivité, etc. Alors que les psychologues, en fait, ils t'aident à exprimer tes doutes, etc. Mais c'est pas le même métier. Et vraiment, c'est une différence qui est importante. Dans le sport, je parle.
Non, bah, surtout le psychologue, il est là pour parler aux dépressifs, quoi. Et on les connaît, les dépressifs. On est obligé. Donc... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est honnêtement, c'est normal.
Mais c'est vrai.
Le psychologue est là pour soigner les traumatismes, quoi. Et le traumatisé qui a passé 15 jours dans sa chambre d'hôpital d'hôtel après l'élimination au Qatar, on sait qui c'est le capitaine, qu'est-ce que je te dis. Donc, à partir de là, je vois même pas comment on peut ne pas être inquiet, moi, franchement. Ton capitaine, le mec, c'est un dépressif, quoi. Donc, s'il faut, tu prends un premier but, il va commencer à pleurer dans un coin du terrain. Non, mais c'est. Ayez peur, les amis, je vous le dis. Hein.
C'est bon?
Oui, ça y est, j'ai fini.
Hugo,
on a pu afficher.
Ah mince,
ouais,
attends. Pardon. En fait, non, je sais pourquoi. C'est parce que j'étais sur le lien. Je suis l'autre lien pour suivre le chat et sans le faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton play. Donc, on entendait Clément. Pardon, excusez-moi. Okay. Vas-y, Nico.
Après, sur la compo d'équipe dont Clément.
Oui, parce que en fait, la grosse question, Nico, et Clément en a parlé un peu et je vous la poserai, c'est que sur les 11 derniers matchs, quand même, du PSG, il y a eu 6 charnières différentes. La plus utilisée,
ouais, c'est logique.
Marquinhos, Danilo, 4 fois. On a eu Danilo, Beraldo 3 fois. Marquinhos, Beraldo 1 fois. Danilo, Ugarte, c'était en Coupe de France 1 fois. Il y avait une défense à 3 contre Orléans, donc utilisé 1 fois. Et vendredi soir, contre Monaco, c'était encore une charnière inédite avec la blessure de Danilo et Marquinhos. C'était Mukiele, Beraldo.
Déjà, c'est logique parce que tu as beaucoup de blessés. Et puis en plus, Enrique, il aime bien faire de la rotation. Après, sur le match de mardi soir, Tu vois, je
Et
pense
demain.
que, par
On peut
exemple,
dire
mettre
demain.
un mec comme Mukiele en défense centrale, ce serait prendre un risque. Parce qu'on l'a vu à Monaco, il manque de repères, il joue pas beaucoup. Et franchement, Mukiele, il n'a pas été bon, honnêtement, dans les placements. Alors, dans le duel, dans la vitesse, oui, il rattrape des coups, mais il y a des erreurs de placement qui sont un petit peu inquiétantes, mais compréhensibles quand tu joues pas beaucoup. Après,
Oui,
moi,
quand
je vois
ton
quand même une
contraire te met au
surprise.
placard.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Mukiele, si tu
Prends
dois le
pas,
faire
ouais.
jouer une fois par mois, il est moins dangereux à droite, honnêtement. Dans l'axe, c'était pas bon, franchement. Et je vois quand même une surprise, moi. Et ça me paraîtrait un gros risque, parce que moi, je le ferais pas. Mais je n'exclus pas qu'on commence le match avec Nuno Mendes dans le couloir gauche. J'ai trouvé que sa rentrée à Monaco était assez concluante. Apparemment, il a déjà des bonnes sensations. Pourquoi pas le faire jouer pendant 1 heure, la première heure de jeu, commencer avec lui, ça te permettrait effectivement de recentrer Hernandez. Et dans ce cas-là, moi, je sais pas. Allez, mais je mettrais quand même une petite pièce malgré tout sur Marquinhos, tu vois. Ouais. Marquinhos, Beraldo ou Marquinhos Hernandez. À mon avis, elle sera là, la charnière. Mais tu peux pas mettre Mukiele en charnière. Il a manque de repères. Il a fait un match là. Non, je crois pas trop. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix hein, quand tu regardes. Hein.
Mais Beraldo Hernandez, c'est possible ça?
De gaucher, c'est impossible.
De gaucher, ah, j'y crois pas. C'est pas
C'est très
grand-chose.
très rare.
Et puis surtout, si
Ouais.
c'est pour. Ouais, ça me semblerait pas une bonne idée. Après, je vois par contre, ouais, Beraldo, sur la forme du moment et sur ce qu'il a montré à Monaco, il devrait jouer, franchement, parce qu'il fait un match plus que correct. Et puis je t'ai dit, moi, c'est l'inconnu Nuno dans le couloir gauche. S'il est capable de prendre le risque de le faire jouer, ça réglera le problème dans l'axe avec Hernandez qui va basculer. La logique voudrait malgré tout une défense, effectivement, Hakimi à droite, Hernandez à gauche. Et puis bah dans l'axe, bah voilà, ce sera Marquinhos-Beraldo, logiquement. On va dire que c'est la compo qui serait la moins surprenante. Luis Enrique, depuis le début de la saison, il fait que nous surprendre. Donc il y aura peut-être une surprise quand même.
Yacine, pour terminer, et après on aura fait 1 heure de podcast, comment tu juges le niveau de Beraldo en ce moment, lui qui est un défenseur central de formation, qui a évolué à ce poste-là sur les derniers matchs, on va dire. Comment tu trouves sa progression? Là, sur le chat, c'est pour ça que je te pose la question, je trouve qu'il s'est quand même un peu amélioré depuis, bon, il faut rappeler, il est arrivé cet hiver, c'est la première fois qu'il découvre le championnat européen, enfin, et la France, il est dans son Brésil natal, il n'a pas beaucoup de saisons au niveau... L'équipe première, comment tu juges sa progression?
Alors déjà, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais en plus, il n'a pas eu de vacances. Donc, il est arrivé de l'été au Brésil à l'hiver en France, sans vacances, après une saison entière. Et en plus, ce que vient de Luis Enrique, ça va pas. Enfin, c'est pas parce qu'il sort Mbappé qu'il fait tout bien. Il l'avait mis latéral gauche pour son premier match. Donc, tu imagines que, bon, ça faisait beaucoup de choses. Non, je trouve qu'il est bien. Je trouve que, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on avait fait le Space, on avait un journaliste, là, un pote de Nico, qui nous avait
Eric
parlé de
Frozier.
lui. Voilà, et ça correspond à ce qu'il nous a dit. Voilà, pas hyper rapide, mais plutôt bon dans le placement, très bon techniquement, dans la relance. Et on voit bien quand même que c'est un joueur qui est capable de faire des passes intéressantes, dans la relance, qui choisit. C'est-à-dire qu'il ne relance pas pour se dire je donne le ballon à mon 6 et puis il se débrouille, moi j'ai fait mon taf. On sent qu'il cherche à faire des décalages, il n'a pas peur de prendre le ballon. Voilà, je trouve qu'il est en progrès. Oui, je pense qu'il va lui manquer, aujourd'hui, il va lui manquer un peu de vitesse sur certains matchs. Il faut aussi, et d'ailleurs, Eric Frozier en avait parlé, pour l'Europe et notamment pour la France, qui progresse un peu dans les duels, parce que là, il est bon dans la. Dans la... Tu vois, par exemple, Thiago Silva. Il avait une très belle lecture du jeu, mais il savait aller au mastic et quand il allait dans un duel, il ne se faisait pas bouger. Aujourd'hui, Beraldo, c'est un peu limite, mais voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. Ça ressemble à une belle trouvaille qui a un bon niveau, qui a un bon défenseur central. Arrêtez de nous le mettre latéral gauche. Voilà, et pour finir sur la charnière à deux gauchers, parce que quelqu'un l'a dit, alors j'allais le dire, mais quelqu'un l'a dit, un peu d'histoire. Il y a eu une charnière de gaucher qui a fait une très belle saison au PSG, c'est Sako Armand. Mais vous regarderez très très régulièrement, que ce soit en sélection, que ce soit dans les clubs, les coachs n'aiment pas avoir de gaucher. Je vais expliquer rapidement pourquoi. C'est qu'en fait, un droitier a plus d'aptitude à jouer avec son pied gauche qu'un gaucher avec son pied droit. Les gauchers, c'est très souvent exclusif. Et donc, quand tu te retrouves avec deux gauchers dans l'axe, bah, tu vas avoir une faculté à jouer plus souvent du même côté, à défendre un peu de la même façon. Alors que deux droitiers sont plus. C'est physionomique, hein, je ne dis pas rien. Deux droitiers sont plus capables à un moment donné de s'adapter. D'ailleurs,
que ce soit Thiago Silva ou Marquinhos, les deux étaient capables de jouer axe gauche sans que ça pose réellement de problème. Voilà.
On découvrira donc les choix de Luis Enrique demain. On peut faire un petit rappel pour le TikTok du compte Paris United. Je ne sais pas si Yacine, tu as le visuel pour vous dire à ceux qui nous suivaient sur le live en direct là, pour le
j'ai
podcast.
Oublié, désolé.
N'hésitez pas. Bon, c'est pas grave, mais n'hésitez pas à vous abonner au TikTok de Paris United. On met plein de contenu. On met des capsules de l'émission, on met aussi des photos et des vidéos des matchs grâce à Sacha Mas, notre photographe qui va à tous les matchs au Parc des Princes et qui nous fait de très très beaux contenus. N'hésitez pas également à vous abonner à différents réseaux sociaux de Paris United puisqu'on revient depuis plusieurs semaines, depuis le match aller contre la Real Sociedad. Et d'ailleurs, Clément, tu levais la main. C'est pour la campagne d'abonnement ?
Non, je voulais revenir sur le TikTok. C'est important aussi parce qu'à partir de 1000 abonnés, on pourra faire des lives, que ce soit à la mi-temps ou des courts lives. S'il y a des petits débats, bah, typiquement l'affaire Mbappé vendredi, ça aurait pu être l'objet d'un live, etc. Et ça on pourra le faire à partir de 1000 abonnés. Donc voilà, c'est important. D'accord, d'attendre okay. Ce stade aussi.
Et aussi, Clément, par rapport à la campagne d'abonnement, parce qu'on vous en a parlé pour la reprise du podcast, quand est-ce que ça va intervenir pour les gens qui nous suivent, qui nous demandaient où s'abonner pour aider Paris United dans ses différents contenus et nous aider à vous proposer d'autres choses sur la chaîne?
Ouais, l'idée c'est de mettre tout ça en place très vite. On est en train un peu de verrouiller à la fois le studio, les invités, les premiers invités, les premières émissions. Ça s'organise et dès que ce sera bien organisé de manière correcte, là, on pourra lancer le truc, mais ce sera très bientôt. Hein. Je pense que c'est une question de semaine. Très très bientôt.
Non, parce qu'il faut le dire, on va pas faire les escrocs à faire payer les gens alors qu'on n'a pas de contenu à leur proposer.
Oui, voilà.
Ah, et bien sûr. Voilà, quand tout ça va démarrer, on aura donc sûrement il y en a qui nous suivent aujourd'hui là, en direct, qui étaient avec nous pour la reprise des podcasts. Une formule d'abonnement à 2,99€ par mois. Il n'y a pas d'obligation. Le podcast restera toujours gratuit, disponible sur la chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Mais voilà, pour nous aider à progresser avec le compte PU, à diversifier les contenus, avoir d'autres émissions avec des invités, des émissions aussi pour revenir sur des sujets à froid, comme par exemple le Parc des Princes, l'avenir du Parc des Princes avec le PSG. Voilà, tout ça, avec ces abonnements à 2,99€ que nous vous proposerons, qui nous aideront à produire ce genre de contenu qualitatif. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, je vais remercier mon plateau du jour, Yacine Amned, Clément Pernia, Nicolas Puravo, qui a été très ingénieux aujourd'hui dans les déguisements. Vous avez le militaire et la licorne aujourd'hui, que vous avez pu apercevoir dans le podcast. Je vous invite à revenir pour ceux qui sont arrivés, parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont arrivés pendant le live, donc ne vous inquiétez pas, il sera bientôt disponible en replay, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube et en podcast. Pourrait revenir en arrière pour voir le premier costume de Nico en militaire pendant l'intervention de Yacine sur Kylian Mbappé. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous pour débriefer ce match, ce 8e de finale retour contre la Real Sociedad et on espère une qualification pour les quarts de finale. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao.
Ciao.
Salut.
Ciao.